Mettez votre foi en Jésus et vous serez pardonné. Gratuitement, vous serez déclaré juste et accepté par Dieu. Il n'y a rien à faire. Et que la quantité de votre péché ne vous retienne pas. Car là où le péché se multiplie, la grâce surabonde. Et c'est génial. Quelle bonne nouvelle. On se réjouit de ce cadeau magnifique. Mais quand même, on se dit que si le pardon est si disponible, qu'est-ce qui nous empêche de continuer à pécher? Car de toute façon, Dieu pardonnera. La grâce est-elle immorale? Telle est l'objection qui est suscitée tout naturellement après ce que nous avons lu dans Romains. Et ce matin, l'apôtre Paul répond à cette objection. Et sa réponse est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui luttent avec le péché. Si nous avons l'impression que le péché est trop fort, si nous avons l'impression qu'on n'arrive pas à échapper d'un péché, si nous avons l'impression que nous sommes prisonniers de l'alcool ou les jeux d'argent en ligne ou la colère, ce texte est une bonne nouvelle pour nous. Alors, merci de prendre votre Bible et de tourner à la page 735. Et je vais lire Romains 6 à partir du verset 1. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et je vais prier. À notre bon Père Céleste, s'il te plaît, que nous voyons plus clairement ce matin, l'œuvre de de Jésus-Christ pour nous. Amen. Notre premier titre de ce matin, c'est l'objection. La grâce est-elle immorale? C'est la question que Paul pose au verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Et peut-être ça a été votre réaction ces dernières semaines. Jeudi soir même, un membre de notre groupe de maison a posé cette même question. La justification par la grâce seule, par la foi seule, c'est bien beau. Mais est-ce que ça veut dire que nous pouvons continuer dans le péché? Si c'est le cas, la grâce est immorale. Et c'est une conclusion naturelle après ce que nous avons lu la semaine dernière, surtout le verset 20 du chapitre 5. Le verset 20 du chapitre 5, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Alors le prisonnier qui rencontre un aumônier chrétien et qui se convertit, qu'est-ce qui l'empêche de continuer dans ses crimes après la prison? Car dans tous les cas, Dieu lui pardonnera. C'est une bonne question. Et c'est une bonne question qui m'encourage quand je discute avec mes amis non chrétiens. Quand ils me disent, alors Keith, c'est bien beau, ça veut dire que tu peux continuer à vivre comme tu veux. En fait, je suis encouragé parce que ça montre qu'ils commencent à bien comprendre la grâce de Dieu. Mais c'est aussi une question à laquelle il faut répondre. La grâce est-elle immorale? Mais c'est aussi une question qui nous concerne quand nous sommes tentés. Comment réagir quand vous songez à commettre un péché et vous vous dites, allez, c'est pas si grave que ça, Dieu va me pardonner. Et comment réagir quand nous sommes tentés, quand nous savons que nous voulons agir autrement, mais nous avons l'impression que le péché est bien trop fort pour nous. La grâce est-elle immorale? Alors Paul répond définitivement non. Et donc, à notre deuxième titre, la réalité. Unis à Christ, nous sommes morts pour le péché et vivants pour Dieu. Regardons le verset 2. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? C'est un verset qui résume notre texte de ce matin. Ça vaut la peine de bien réfléchir sur ce verset. Nous sommes morts au péché, selon l'apôtre Paul. Le péché fait partie de notre ancienne vie. Ça fait partie de notre passé. Et ce serait incompréhensible de revenir en arrière. Mais avant d'aller plus loin, un rappel et une précision. D'abord, le rappel. Si vous étiez là la semaine dernière, est-ce que vous vous souvenez que nous avons vu une vision biblique du péché? Une vision biblique du péché. Le péché n'est pas d'abord les petits actes que nous commettons par ici ou par là. Non, non, non. Chapitre 5, nous avons vu que le péché est d'abord un maître qui domine. C'est d'abord un règne auquel nous sommes soumis, comme tous les êtres humains depuis Adam. Le péché, c'est un maître qui règne. Et donc la précision Si nous sommes morts au péché, nous sommes morts au règne du péché. Nous sommes morts à ce maître qui nous domine, qui est le péché. Et donc, ça ne veut pas dire que nous ne commettons plus de péché, mais ça veut dire que nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Nous ne sommes plus sous le règne du péché. Et donc, en tant que chrétien, il nous arrive encore, tristement, à commettre des péchés. Mais désormais, c'est une intrusion, non pas une règle de vie. Ça devient un choix plutôt qu'une obligation. Et donc, si nous ne sommes plus sous le règne du péché qui nous a dominés, qui nous a tenus captifs, pourquoi? Pourquoi et comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Et donc, une image qui pourrait nous aider. Imaginez, s'il vous plaît, un prisonnier. Un prisonnier, il a accompli sa peine. Et donc, le gardien l'amène aux portes de la prison et le prisonnier sort un homme libre. Et ce serait incompréhensible si ce même prisonnier essayait de rentrer à nouveau dans sa cellule. Non, il est libre. Il est libre et il doit vivre en conséquence. Et pour les chrétiens, voici la réalité. Nous sommes unis à Christ. Et donc, nous sommes morts pour le péché et vivons pour Dieu. Et la suite des versets, les versets 3 à 10, expliquent comment c'est possible d'être mort pour le péché. Et donc, le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et donc là, Paul prend le langage du baptême pour parler de notre union avec Christ. Parce que par la foi, nous sommes unis avec Christ. Ce qui s'est passé à lui, s'est passé à nous. La meilleure illustration, c'est de prendre la télécommande et de le mettre dans ma Bible. OK? Et donc, ce qui se passe à ma Bible se passe aussi pour les télécommandes. Si je lève la Bible, la télécommande se lève aussi. Si je descends la Bible, la télécommande descend aussi. La télécommande est unie à la Bible. Et c'est la même chose pour nous. Christ est mort. Uni à lui, je suis mort avec lui. La pénalité exigée par le maître péché a été payée, a été réglée par la mort du Christ. Et donc, je suis mort aussi pour le péché. Et le péché ne peut plus rien réclamer de moi. De plus, uni à Christ par la foi, Dieu veut que je vive une vie nouvelle. Regardons le verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père. Et je vais juste arrêter ma lecture là, parce que comment allez-vous finir cette phrase? Paul a écrit, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, je m'attends à ce qu'il écrit, de même nous aussi, nous serons ressuscités par la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'il écrit. Non, non, Paul écrit, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Alors quand Christ revient, que nous soyons encore vivants ou pas, nous serons ressuscités. Nous serons ressuscités et c'est notre espérance à venir, la résurrection, plus de mort, plus de maladie, plus de péché. C'est une réalité pour le chrétien. Et Paul en parle au verset 5. Mais en attendant cette résurrection, nous avons une vie nouvelle à vivre parce que nous sommes unis à Christ qui est ressuscité. Nous pouvons, à notre tour, mener une vie nouvelle. Unis à Christ, nous sommes morts pour le péché et nous sommes vivants pour Dieu. Et le verset 6 décrit cela en termes très graphiques. Le verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc Christ a été crucifié et encore une fois, uni à Christ. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, il ne s'agit pas d'une partie de moi, mais il s'agit de notre ancien, moi, de mon ancien moi. S'il vous plaît, imaginez une biographie de quelqu'un en deux tomes. Voici le tome avant, que je connaisse Jésus-Christ. Ma vie sous l'emprise, sous le règne du péché. Cet ancien moi a été crucifié avec Christ. La vie asservie au péché, la vie esclave du péché a été crucifiée avec Christ. Et donc c'est fini. Et aujourd'hui, unis avec Christ, nous pouvons commencer le deuxième tome. Unis avec Christ, nous sommes morts pour le péché, nous ne sommes plus esclaves du péché et nous sommes libérés du péché pour vivre une nouvelle vie, une nouvelle biographie qui commence avec Jésus-Christ. Et donc, pour revenir à l'image du prisonnier, si le prisonnier n'avait pas encore accompli sa peine, il a échappé du prison, le gardien aurait raison de le ramener dans sa cellule. Mais parce que la peine a été accomplie, le prisonnier peut sortir et vivre sa nouvelle vie de liberté. Et de même, pour le chrétien, la peine pour le péché a été payée. Et nous pouvons nous en aller. Parce que Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui pour vivre une vie nouvelle. Et donc voici la réalité. Unis à Christ, nous sommes morts pour le péché et vivants pour Dieu. Alors, dans les versets que nous avons lus, est-ce que vous avez remarqué comment Paul fait appel à notre intelligence? Le verset 3, ignorez-vous. Et puis c'est aussi le verset 6, nous savons. Le verset 9 aussi, car nous savons. Et dans un instant, verset 11, il va nous dire, considérez-vous. Paul fait appel à notre intelligence, car si nous saisissons cette nouvelle situation, ça va nous fortifier, ça va nous aider à agir autrement. Alors, si vous pouvez regarder l'écran, est-ce que vous avez vu ces pubs pour une montre qui est hors de prix? Le titre, c'est « À quoi pense qui gagne ?» Et nous voyons un athlète chassé par des chiens ou un athlète qui passe un témoin, sauf que le témoin n'est pas le bâton, mais c'est un bâton de dynamite. Au même, nous voyons le nageur qui se bat contre des requins. La phrase, la pub, c'est « à quoi pense qui gagne ?» Le champion doit penser d'une certaine façon pour courir encore plus vite, pour nager, pour gagner. Et le chrétien doit aussi penser d'une certaine façon pour vivre. Et donc, notre dernier titre pour ce matin, c'est l'exhortation. Considérons-nous morts pour le péché et vivants pour la justice. Le verset 11. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous devons nous considérer morts pour le péché. La domination du péché ne fait plus partie de notre vie. Le règne du péché, ça fait partie du tome 1 de notre biographie, non pas du deuxième tome actuel. Le péché n'est plus mon maître. Mais lorsque les pubs que nous venons de voir présentent un jeu mental, une idée que l'athlète doit se donner, ici, ce n'est pas un jeu mental, mais c'est la réalité de ce que Christ a fait pour nous parce que nous sommes unis avec lui. Nous devons nous considérer comme morts pour le péché. Et donc, nous avons tort de penser que le péché est plus fort que nous. Nous avons tort de penser que quand nous sommes tentés, nous n'avons pas de choix, que nous sommes obligés de céder à la tentation. Parce qu'au contraire, quand nous sommes tentés par le péché, nous pouvons dire « Non, 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 non. Là, tu fais partie de mon ancienne vie. Tu ne fais plus partie de ma vie actuelle. Tu as été le maître, mais tu n'es plus le maître de ma vie. » Et donc, la tentation de prendre encore un verre de vin ou la tentation de jouer avec les chiffres quand nous sommes responsables pour les finances ou la tentation de nous mettre en avant par la mensonge, la tentation de poursuivre des relations sexuelles hors du mariage ou de réagir avec un coup de colère, nous pouvons et nous devons nous considérer comme morts à ces choses. Nous sommes morts au péché avec Christ. Et ce serait absurde de revenir à cet ancien maître. Et c'est en faisant ceci que le péché ne règnera plus. Alors, dans quelle situation devez-vous vous considérer mort au péché? Et je pense que notre baptême est là pour nous aider dans cela. C'est par la foi que nous sommes unis à Christ. Ça se passe à notre conversion et non pas à notre baptême. Mais notre descente dans les eaux de baptême représente, symbolise notre mort avec Christ, notre mort au péché. Et quand nous sortons de l'eau, ça symbolise comment Christ est ressuscité, nous avec lui, pour mener une nouvelle vie avec lui. Alors si vous vous dites disciple de Jésus et vous n'êtes pas encore baptisé, qu'est-ce qui vous empêche de faire ainsi? Mais dans tous les cas, l'exhortation ici, c'est de nous considérer morts pour le péché et vivants pour la justice. Car au lieu de mettre notre corps au service de l'injustice, parce que Christ est ressuscité et nous avec lui, nous pouvons maintenant mettre notre corps au service de la justice. Le verset 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Et j'apprécie beaucoup les termes de ces versets qui nous invitent à réfléchir aux membres de notre corps et comment nous pouvons les utiliser pour la justice, pour servir Dieu. Au début de la journée, on peut prier, Seigneur, que mes mains servent les autres, que mes mains tapent des mails qui édifient, qui font du bien. Seigneur, que ma bouche dise des choses qui sont vraies et qui bénissent les autres. Que ma tête réfléchisse à ce qui est saint, que mes pieds me conduisent là où je peux aider, servir les autres. Mettons les membres de notre corps au service de Dieu, au service de la justice. Et c'est une prière qu'on peut faire en venant à l'église le dimanche matin, en rentrant du travail le soir. Seigneur, que mon corps soit comme des instruments de la justice. Donc revenons au point de départ. Allons-nous persister dans, dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas, certainement pas. Ce serait absurde de nous mettre à nouveau, de vivre à nouveau comme si nous étions sous notre ancien maître, le péché. Et nous sommes ressuscités avec Christ pour mener une vie nouvelle avec lui. Penser que nous pourrions continuer dans le péché serait une façon de penser que le salut n'est qu'un ticket pour le paradis. Penser que nous pouvons persister dans le péché ne voit pas la laideur du péché, à quel point c'est laid, ni comment les êtres humains sont naturellement esclaves du péché et ont besoin d'être libérés du péché. Non, la réponse de Paul, c'est que unis à Christ, nous sommes morts pour le péché et nous sommes ressuscités avec Christ pour vivre une vie nouvelle avec lui. Ce serait absurde de nous mettre à nouveau sous l'esclavage du péché. Alors, considérons-nous morts pour le péché et vivons pour Dieu. Et si vous n'êtes pas chrétien ce matin, mais vous voulez réformer votre vie, c'est important de commencer par le bon point de départ. Ce n'est que en Christ, par la foi en lui, que nous pouvons être en règle avec Dieu et puis libérer du péché pour mener une vie nouvelle. Je vais prier pour finir. Je laisse quelques instants juste pour réfléchir ou prier à nous-mêmes en silence par rapport à ce que nous avons vu. Et notre bon Père Céleste, nous te remercions de ce que nous sommes unis à Christ par la foi. Merci de ce que nous sommes morts avec lui au péché. Et nous sommes ressuscités avec lui pour vivre une vie nouvelle. Alors donne-nous, s'il te plaît, de saisir cette réalité, de nous considérer morts au péché et vivants pour la justice. Et effectivement, au lieu de mettre les membres de notre corps comme des instruments pour l'injustice, que nous puissions mettre les membres de notre corps comme comme des instruments de justice pour te plaire et pour faire du bien autour de nous, là où tu nous as mis. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.